l'objet même de cette jalousie. Pourquoi ces êtres beaucoup plus intelligents sont-ils jaloux? Et sur quoi s'exerce cette jalousie? Tout ça est dit hein, dans l'Écriture. Si j'essaie de comprendre l'Écriture, hein, en allant le plus loin possible de pénétrer ce mystère de la tentation et de pénétrer ce mystère de la lutte. Et quand saint Paul nous dit hein, que l'homme n'a pas à lutter uniquement en face des hommes, mais que l'homme a à lutter en face de puissances spirituelles. Ces puissances spirituelles, ça ne peut pas être Dieu, c'est évident. Donc, c'est des puissances intermédiaires. Au plan philosophique, je ne peux pas affirmer qu'elles existent, mais je dis que ces traditions religieuses si vénérables me montrent qu'il y a ça. Et que la lutte dans laquelle je suis engagé, pratiquement, ne peut pas s'expliquer uniquement au niveau humain. Il y a quelque chose d'autre, de beaucoup plus puissant, qui commande cette lutte. Il n'y a pas que des jalousies fraternelles, il n'y a pas que des jalousies pontificales, parce que les jalousies sont toujours religieuses, il n'y a pas que des jalousies pontificales, il y a des jalousies qui vont beaucoup plus loin. Parce que ces jalousies pontificales, ces jalousies religieuses et fraternelles, parce que c'est presque toujours comme ça, c'est presque toujours religieux les jalousies. Alors elles sont d'abord fraternelles, puis elles sont pontificales. Et c'est dans l'Écriture, parce qu'au fond c'est vrai. Quand je regarde la jalousie pontificale ultime et dernière des grands prêtres à l'égard de Jésus, c'est vraiment une jalousie pontificale. Ça, c'est sûr. On n'accepte pas qu'un autre passe devant. Et c'est encore religieux. Et tout ça, à travers toute l'Écriture, nous trouvons cela. Nous voyons que l'attitude religieuse, hein, qui est fondamentale à l'homme, qui est primordiale dans le cœur de l'homme, est en même temps l'enjeu des plus grandes luttes. Et l'enjeu des plus grandes jalousies. Et que la jalousie des êtres purement spirituels qui se sont détournés de Dieu, cette jalousie, elle est radicale. Et cette jalousie, selon ce qui est dit dans l'Écriture, regarde plus la femme que l'homme. Ça pose quelques petits problèmes au plan philosophique. Comment se fait-il que la femme est plus regardée par le serpent que l'homme? La femme intéresse plus le démon que l'homme. C'est curieux. Philosophiquement, comment expliquer ça? Alors, il faut d'abord regarder la jalousie du démon par rapport à l'homme en général, puis spécialement à l'égard de la femme. Et c'est peut-être, voyez, quelque chose qui nous conduit vers une vision de l'anthropologique qui va aller très loin, cela. C'est si, par la lutte, nous sommes obligés de regarder les choses d'une façon très profonde. Pourquoi cette jalousie des aînés, ces êtres spirituels, on ne comprend pas comment des êtres purement spirituels peuvent jalouser de pauvres êtres comme nous, qui sommes un peu alourdis par notre corps. Hein. Nous allons bien moins vite au point de vue de la compréhension que les anges. Si les anges existent, si ces êtres purement spirituels, ils comprennent bien plus rapidement que nous. Comment pouvons-nous susciter la jalousie des anges? C'est invraisemblable. On a envie de leur dire, mais écoutez, non, non, faites-vous homme pendant 8 jours, et puis après, votre jalousie sera guérie, hein. Vous verrez que c'est pas commode du tout de mener une vie humaine, hein. C'est très, très difficile, on est empêtré dans la matière. Comment se fait-il qu'il y ait des anges, des êtres purement spirituels qui soient jaloux de nous? C'est invraisemblable. Sûrement là, un très très grand. Vous voyez, ça pose une question, c'est ça qui m'intéresse. L'Écriture pose des questions aux philosophes. Si je regarde attentivement l'écriture, je vois que la lutte, elle est par rapport à la fécondité. C'est par rapport à la fécondité. C'est pas par rapport à l'intelligence. Non. Je crois que le démon, philosophiquement, s'il existe, hein, si ces anges séparés, si ces anges déchus existent, ils ne sont pas jaloux de notre intelligence. Oui. Faites-vous philosophe, le démon ne vous jalousera pas. Il ne jalouse pas la science des savants. Non. Il dit cherchez. Et il donne des bénéfices aux chercheurs. Oh, vous gagnerez votre vie en cherchant. Mais, il n'y a pas de danger, ils sont tranquilles pendant ça là. C'est très curieux. L'homme est objet de jalousie du démon par le mystère de la fécondité. Ça le tracasse. La fécondité, le démon dit, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Le démon ne comprend pas. L'efficacité, je comprends. La rapidité du TGV, je comprends. La rapidité des avions, je comprends. Toutes les recherches nucléaires, je comprends. Je comprends tout ça, bien mieux que nous. Alors, vis-à-vis de tout ça, aucune jalousie. Il dit, cherchez, vous mettez silence dans le jeu, moi je ferai ça en un semestre. Je ne joue pas. Mais il y a quelque chose que le démon ne comprend pas. Il y a un secret que Dieu a déposé dans le cœur de l'homme. L'homme et la femme sont aimés de Dieu d'une façon tout à fait particulière. Parce qu'ils sont capables d'aimer d'une manière telle que leur amour devient source de vie. Fécondité au niveau de la vie biologique. Les anges bons, ils sont en admiration. C'est admirable que Dieu ait réalisé son chef-d'œuvre de cette manière, par des êtres plus faibles, plus fragiles, auxquels il a pu communiquer un secret d'amour, qu'ils deviennent des sources de vie. Comme Dieu. Et les anges mauvais sont furieux de ça. Alors vous comprenez tout de suite, hein, pourquoi c'est la femme. Parce qu'elle est gardienne de la fécondité. Et que la femme est plus proche de la fécondité. Et c'est donc vraiment à cause de ça qu'il y a une inimitié. Et là vous comprenez tout de suite la grande vision de l'Apocalypse, hein, c'est la femme qui enfante, qui suscite la colère du dragon. Colère de celui qui est jaloux. Rouge feu, il est dans cet état de jalousie. Vous savez que quand on est dans la jalousie et que vous laissez aller votre passion de jalousie, vous êtes en colère. Il ne faut jamais s'approcher de quelqu'un qui est jaloux. Jamais. Il est capable de faire n'importe quoi. On est capable de tuer par jalousie. Dans une colère de jalousie. C'est effrayant. Demandez à des médecins, et à des psychologues, ce que ça peut être. Et voyez dans l'Antiquité ce qui est dit quand Sénèque parle de la colère, et de la colère liée à la jalousie. Justement, ils sont comme des bêtes féroces. Et c'est vrai, on est déchaînés. La jalousie du démon à l'égard de la fécondité. Et non seulement la fécondité biologique, il est encore plus farouche contre la fécondité divine. Il s'aperçoit bien qu'il y a dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme un amour divin tel que Dieu veut que l'homme et la femme coopèrent à la vie divine, à la communication de la vie divine. Ils ne sont pas seulement source de vie humaine, c'est déjà très grand, mais ils sont des instruments d'amour pour communiquer la vie divine. Dieu a voulu ce que nous appelons le sacerdoce royal des fidèles, ce que nous appelons le sacerdoce ministériel du prêtre. Vous voyez que le démon s'en aperçoit pas, ça. C'est bien que Dieu se sert des hommes pour sanctifier ses semblables. Que Dieu se sert de la femme pour vivre cette maternité spirituelle que Marie a vécue à la croix. Que Dieu se sert de certains êtres humains, des hommes, pour confier le sacerdoce et pour qu'il soit source de vie divine, qu'il soit père. La maternité, la paternité, les deux grandes oppositions. C'est de fait, le démon ne peut pas accepter que le petit Benjamin, que la petite Benjamine porte en elle un don d'amour que lui n'a pas, un secret que lui n'a pas. Alors, on voit cette lutte d'une jalousie implacable, une haine, une volonté de destruction. Et ça s'explique comment, de fait, le démon veut détruire cette humanité. Et s'il le pouvait, il détruirait tout de suite l'humanité. Et Dieu lui donne un pouvoir limité. Et Dieu demande à l'homme de se défendre contre ce pouvoir du démon. C'est bien évident que si les démons pouvaient anéantir l'humanité aujourd'hui, l'anéantiraient tout de suite. Tout de suite. Ça, je vous affirme. Philosophiquement, je peux le dire. C'est extraordinaire. Avec toujours en disant, si le démon existe, c'est comme ça qu'il serait. Il ne peut pas être autrement. Parce que s'il a refusé l'obéissance à Dieu, il l'a refusé en face des petits Benjamins plus aimés, plus enveloppés de miséricorde et d'amour. Alors on voit cette espèce d'opposition farouche, terrible. Et je crois qu'on peut dire que c'est une opposition implacable devant laquelle nous nous trouvons. Alors, j'essaie, au plan philosophique, au plan de ma réflexion philosophique, si ceci m'est donné dans les traditions religieuses, ces traditions judéo-chrétiennes, et si je vois que face à cette lutte, il a fallu une intervention directe de Dieu pour tout reprendre. L'homme ne pouvait pas par lui-même. Et c'est vrai, selon l'Évangile, selon le Nouveau Testament, il est dit que Dieu a envoyé son Fils. Philosophiquement, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais ça ne fait rien. Je peux affirmer, selon les grandes paraboles que donne Jésus, que c'était pas suffisant d'envoyer des prophètes, c'était pas suffisant d'envoyer des patriarches, des hommes merveilleux, c'était pas suffisant de faire une alliance avec son peuple, il fallait quelque chose de plus. Il fallait quelqu'un qui soit un avec Dieu et qui soit l'envoyé de Dieu. Donc à la fois un avec lui et l'envoyé de Dieu. S'incarne pour être tout proche de nous. et qui accepte la lutte à son paroxysme, l'agneau de Dieu qui porte l'iniquité du monde, pour libérer l'homme de cette lutte implacable, en lui donnant quelque chose de son esprit, quelque chose de sa force, pour libérer l'homme en plénitude, radicalement, faire de lui une nouvelle créature. Ça prouve, si je réfléchis, combien l'homme est aimé du Créateur. Vous ne pouvez pas manifester davantage son amour pour lui que de lui envoyer son Fils bien-aimé. Celui qui est avec lui et qui pourtant est distinct de lui. Et qui vient lutter pour l'homme. Alors, au plan philosophique, je dois réfléchir cette grande lutte devant laquelle je me trouve. Qu'est-ce qu'elle va me faire découvrir? Elle va me faire découvrir que la grandeur de l'homme n'est pas premièrement dans le développement de son intelligence, mais que la grandeur de l'homme est premièrement dans sa capacité d'aimer. Que c'est dans sa capacité d'aimer qu'il y a dans le cœur de l'homme, dans l'esprit de l'homme, quelque chose d'unique. Et que toute la grandeur de l'homme provient justement de cette capacité qu'il a d'aimer. Par où il peut être source d'une vie nouvelle. Par où il peut coopérer à l'action même de son Dieu, de son Père, pour communiquer la vie divine. Je puis affirmer ça, et ceci me fait découvrir, voyez, d'une façon plus forte, ce que nous avions déjà vu en regardant les 11 premiers chapitres de la Genèse. Qu'il y a dans l'homme, en effet, et c'est la véritable vision anthropologique que j'ai sur l'homme, l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance, qu'il y a dans l'homme la dimension du travail, dominer l'univers, qu'il y a dans l'homme la dimension de l'intelligence, connaître l'univers, qu'il y a dans l'homme une capacité d'aimer et qu'il y a un ordre dans ces trois dimensions. Le dominium est ordonné à la connaissance et la connaissance est ordonnée à l'amour. Et qu'en définitive, ce qui fait la grandeur unique de l'homme, ce qui fait son privilège, c'est sa capacité d'aimer. Et si la femme est dans la vision même de ces traditions religieuses médiatrice dans l'ordre de l'amour, elle est celle en qui cette capacité d'aimer va pouvoir se réaliser de la manière la plus forte qui soit. Et donc, c'est normal qu'elle soit à la fois la plus aimée et la plus attaquée. Parce qu'elle est forteresse dans l'ordre de l'amour. Et si la femme perd sa dignité de médiatrice dans l'ordre de l'amour pour devenir séductrice dans l'ordre de l'orgueil, dans l'ordre de la vanité, dans l'ordre du plaisir, à ce moment-là, elle se dégrade, et avec elle, toute l'humanité. Parce que la femme est responsable, étant médiatrice dans l'ordre de l'amour, est responsable de cette croissance dans l'ordre de l'amour. Vous voyez comment, au plan philosophique, la lecture de cette tradition judéo-chrétienne me permet de comprendre qu'à travers toute l'écriture, je retrouve cette vision première, l'homme créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. La capacité du démon de pervertir cet ordre de sagesse voulu par Dieu en exaltant l'intelligence et le dominium. En pervertissant l'intelligence, parce que exalter l'intelligence, c'est la pervertir. Vouloir que l'intelligence soit première, c'est la perversion la plus terrible. Parce que l'intelligence est faite pour aimer, pour nous aider à aimer. Donc l'exaltation de l'intelligence, c'est la perversion de l'intelligence. Et cette autre perversion, qui est justement vouloir dominer. Pour le plaisir de dominer, vouloir façonner l'univers, le transformer à notre propre image, pour le plaisir de le dominer. Nous voyons bien là, vous voyez, les deux grandes perversions vers lesquelles le démon essaie toujours de nous en tirer. Deux perversions par rapport à ce que Dieu voulait de l'homme et de la femme, qu'ils soient des sources d'amour, et qu'ils comprennent que c'est cela que Dieu a mis en eux de plus grand, être source d'amour pour Dieu et pour les autres. Et ceci prend toute sa taille quand nous comprenons que tout a été repris par celui qui est l'envoyé par excellence du Père, celui qui est son Fils. En lui, dans sa nature humaine, assumée par le Verbe, nous voyons comment le dominium, ce pouvoir de domination vis-à-vis de l'univers, a été complètement dépassé par une pauvreté intérieure. Comment son intelligence a connu elle aussi un dépassement grâce à une humilité profonde. Et comment, en lui, cette capacité d'aimer a été jusqu'au bout. Parce qu'il a porté la souffrance du monde. Et en portant la souffrance du monde, il a montré jusqu'où il l'aimait. Quand Pilate présente Jésus crucifié après la flagellation à son peuple, il dit « Voici l'homme, l'homme nouveau, l'homme par excellence. » C'est l'homme de douleur. C'est l'homme silencieux. C'est l'homme dans la nudité la plus totale, la pauvreté la plus grande. Et c'est bien l'homme, parce que tout est transformé par l'amour. Tout est au service de l'amour. Nous pouvons dire que que dans la nouvelle alliance, comprenons mieux comment tout est ordonné à cet amour. Et qu'au plan philosophique, on peut dire que toutes les luttes sont en vue de cette pauvreté, en vue de cette humilité et de ce dépouillement, pour que l'amour puisse s'exercer pleinement et totalement. Dans cette vision dernière, voyez comment l'homme apparaît raviné par les luttes, purifié par les luttes, pour que l'amour dont il est capable et que Dieu lui donne en surabondance arrive à prendre tout. On a comme une nouvelle définition de l'homme. L'homme est celui qui est le plus aimé, chef-d'œuvre d'amour, et celui qui est le plus capable d'aimer. Il est capable d'offrir sa vie pour manifester son amour. Et ceci, c'est unique. C'est la petite créature dernière qui peut être le plus proche de Dieu amour. En acceptant cette pauvreté radicale, en acceptant cette humilité, en acceptant la souffrance. C'est par là qu'il peut être le plus proche du Dieu amour. Il est un être entièrement transformé par l'amour. Vous voyez là comment l'homme parfait, c'est le saint qui n'est plus qu'une flamme d'amour, Jésus. Et dans la mesure où on est capable de s'approcher de lui, on n'est plus que cette flamme d'amour. Je crois que c'est ce que nous pouvons, dans une réflexion philosophique, découvrir à travers l'Écriture. Je répète que c'est la dernière fois, puisque nous reprendrons au mois d'octobre, mais au mois de juin, il n'y aura pas de cours.